Bonjour à tous. Quelle semaine! Certains d'entre vous étaient plus conscients que d'autres de tout le travail minutieux qui a été effectué. Vous l'avez entendu lors des annonces, mais je ne peux m'empêcher de souligner à quel point il a été passionnant de faire passer le studio du dépoussiérage à la production en l'espace de 7 jours. Et même un peu plus rapidement que cela, il y a eu des changements de site web, des mises à jour de studio, des changements d'équipement, des affichages, du marketing, tant de choses ont été mises en œuvre. Et puis, bien sûr, à la toute dernière minute, nous avons eu un problème d'exportation, nous avons donc dû réexporter le fichier, et puis nous avons tout mis en place vers 10h hier soir. Une fois de plus, j'ai envoyé un courriel hier soir pour remercier toutes les équipes qui ont fait en sorte que tout se passe très, très rapidement. Je vais changer de vitesse. Récemment, nous avons entendu un sermon sur la prière et ce qu'elle est, et nous avons abordé certains de ses aspects généraux, mais je vais aborder la question sous un angle différent aujourd'hui, et je commencerai, comme j'aime souvent le faire, paragraphe une question. Avez-vous déjà prié en ayant l'impression de ne pas être sûr de la réponse de Dieu? Ce n'est pas la même chose que d'aller prier, de se mettre à genoux, de demander les choses dont on a besoin. Il s'agit de la réponse. Avez-vous déjà été dans des situations? Je n'ai pas besoin de lever la main, car tout le monde lèverait la sienne. Avez-vous déjà été dans une situation où vous n'étiez pas sûr de la réponse de Dieu ou même s'il avait répondu? Nous savons que l'un des outils de croissance est l'étude de la Bible, la méditation, la prière. Nous devons prier Dieu. C'est nous qui parlons au Créateur de l'univers, mais lorsqu'il nous répond, reconnaissons-nous ce qu'il fait? Le reconnaissons-nous? Le comprenons-nous? Ou connaissons-nous même les différentes façons dont il peut le faire? Car il y a de multiples façons pour Dieu de répondre à nos prières. Nous allons donc explorer aujourd'hui quelques-unes de ces multiples façons dont Dieu peut répondre à la prière, ainsi que votre rôle et le mien dans la manière dont nous recevons ces réponses. Cela devient l'élément clé de tout ceci tout au long du message. La façon dont vous et moi recevons la réponse de Dieu détermine souvent si nous reconnaissons ou non sa réponse parce que ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin. Vous n'avez donc jamais entendu. J'espère que ce n'est pas le cas, que vous avez prié et que vous avez entendu « Je vais répondre à votre prière ». Parce que Dieu a l'air de venir du Seigneur des anneaux. Mais je n'ai jamais entendu Dieu. Et nous ne devrions pas entendre Dieu nous donner une réponse audible à nos prières. Nous devons donc découvrir quelle est la réponse, parce que cela change tout dans la direction de ce que nous faisons, dans la façon dont nous vivons notre vie. La façon dont nous répondons à cette réponse est basée sur notre capacité à comprendre sa réponse, à l'interpréter, à la reconnaître. Et cela commence par l'examen des multiples façons dont il pourrait répondre. Revenons au livre de la Genèse, au chapitre 41 de la Genèse. Genèse chapitre 41. Nous commencerons au verset 38. Le verset 38 dit, « Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci, un homme qui est l'Esprit de Dieu ?» Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Pharaon dit à Joseph, « Si Dieu t'a montré tout cela, c'est qu'il n'y a personne d'aussi discret et d'aussi sage que toi. » C'est Pharaon, l'un des puissants, qui parle à Joseph, presque comme un Dieu humain. Verset 40, « Tu seras la tête de ma maison, et selon ta parole, tu seras la tête de mon peuple. Le seul qui sera plus grand, c'est Pharaon. Mais ce n'est pas comme cela que cela a commencé. N'est-ce pas? C'est la finalité. Des années et des années plus tard, après avoir prié, Joseph a demandé encore et encore à Dieu d'intervenir, mais Dieu ne l'a pas fait. Finalement, il est intervenu. La première réponse que nous pouvons recevoir de Dieu est probablement l'une des plus difficiles à accepter. Dieu répond, « Pas encore. Je vais les écrire. Je vais les simplifier grandement, nous allons entrer dans les détails. » Mais quand Dieu répond, « Pas encore ou attendez. » Pharaon a attendu et attendu et attendu, et finalement il a été exaucé. Passez au verset ou au chapitre 50, le même chapitre 50 de la Genèse, quelques chapitres plus loin. Comme le livre se termine, commencez au verset 19, verset complet ici, verset 19 du chapitre 50 de la Genèse, Joseph leur dit, à tous ses frères, ne craignez rien, car je suis à la place de Dieu. Verset 20, quant à vous, vous avez pensé du mal de moi. Et vous pouvez imaginer à quoi ressemblaient certaines de ces prières, surtout au début. Mais Dieu a voulu que ce soit un bien, que cela arrive comme aujourd'hui, et que beaucoup de gens soient sauvés vivants. Le plan de Dieu pour Joseph était de le faire attendre, attendre et attendre jusqu'à ce qu'il réponde. Vous pouvez penser au verset où Dieu dit qu'il est long à supporter, mais qu'il répond rapidement. Nous pourrions passer le reste de l'après-midi à montrer comment Dieu fait attendre les gens. Vous pouvez penser à David qui est devenu roi et qui a dû faire face à Saül année après année, en essayant de continuer à faire ce qu'il fallait. Dieu intervient, intervient. Dieu a dit, pas encore. Israël dans le désert, pendant 40 ans, Dieu intervient, intervient, et il continue à dire, pas encore. Pas encore est un mot difficile à prononcer, car il signifie qu'il vous répondra. Cependant, on peut très facilement confondre cela avec le fait qu'il ne répond pas du tout. Abraham et Sarah en sont un autre exemple. Il est donc important que nous comprenions ce que signifie « pas encore ». En termes simples, et nous examinerons quelques versets pour étayer notre propos, cela signifie que Dieu n'a pas fermé la porte, mais qu'il ne l'a pas non plus ouverte. Dans la vie, lorsque nous essayons de rechercher la volonté de Dieu dans un domaine, nous essayons souvent de chercher des portes ouvertes. Nous le faisons tout le temps dans le travail. S'agit-il d'une porte ouverte que Dieu nous offre? Ou Dieu, si ce n'est pas une porte ouverte? Je me souviens qu'avant de me marier, j'ai dit, « Dieu, tu vas devoir me frapper à la tête, me montrer, me donner une porte ouverte, ou la claquer pour que je ne prenne pas la mauvaise décision. » Et nous avons probablement tous prié de la même manière au cours de notre vie. Mais un pas encore, c'est que la porte n'a pas été fermée, mais qu'elle ne semble pas non plus s'ouvrir plus largement. Comment cela se manifeste-t-il dans votre vie? Cela dépend de la nature de la prière, du besoin, de l'épreuve ou du désir. Toutes les prières de ce type ne sont pas dues à une épreuve, mais vous pouvez avoir des désirs ou des intérêts, ou une foi, mais Dieu dit simplement pas encore, mais il le fait pour une raison. Et c'est la clé de tout ce message. Nous allons examiner certaines des raisons pour lesquelles Dieu dit ce qu'il dit. Et lorsque vous analysez les raisons ou que vous les gardez à l'esprit lorsque vous traversez une situation où Dieu dit pas encore, et certaines des autres réponses que nous examinerons plus tard, ces raisons vous aideront à déterminer quelle est la réponse de Dieu ou quelle est la réponse actuelle dans ce cas. S'il dit pas encore, souvenez-vous que si Dieu retarde quelque chose, si notre Créateur retarde quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il l'a refusé. Un retard n'est pas un refus. Parfois, cela devient difficile parce qu'il faut attendre et faire preuve de patience. Allez à Habacuc 2. Nous l'avons lu tant de fois récemment, mais il s'applique aujourd'hui dans un contexte différent. Habacuc, chapitre 2. Nous commencerons par le premier verset. Habacuc 2, verset 1. Pas encore signifie simplement qu'il n'a pas encore répondu, mais qu'il n'a pas rejeté la demande. La porte n'a pas claqué. J'ai entendu des histoires de gens qui m'ont raconté qu'ils cherchaient une voiture, qu'ils étaient allés chez ce concessionnaire et que la personne leur avait donné un prix. Oh, ce n'est pas bon. Dieu a fermé la porte et soudain, la voiture a été vendue sous leurs pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, ce n'était pas le cas, mais vous allez chez un autre, et vous continuez, mais Dieu, j'essaie de trouver la voiture. Et puis parfois, nous oublions que les petites réponses dans les grandes prières sont des conseils de Dieu, parce qu'il n'en est pas encore là. Et c'est ce qui est le plus difficile, parce que nous sommes toujours en train de nous demander, est-ce que Dieu dit non? C'est pourquoi il est important de voir ces exemples dans notre vie pour savoir exactement ce que Dieu essaie de faire. Si nous savons ce qu'il essaie de faire, alors nous pouvons très facilement voir quelle est sa réponse. Habacuc 2, verset 1. Je me tiendrai sur mes gardes et je placerai sur moi une tour, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et je répondrai quand on me fera des reproches. L'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris une vision et mets-la sur des tables, afin que celui qui la lira puisse courir, car la vision. Ou vous pourriez dire, dans ce cas pour la prière, est encore pour un temps déterminé que la fin ne parlera et ne mentira pas. Même si elle tarde. Eh bien, frères, si nous pensons dans le contexte du royaume de Dieu, de la prophétie et de tous les, nous lisons ce verset normalement, on a parfois l'impression qu'il tarde, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression que la prière tarde à venir et on se dit, mon Dieu, vas-tu me répondre? Je vous dirai qu'il faut l'attendre, car elle viendra sûrement. Dieu a un plan qu'il réalise au moment qu'il choisit pour le réaliser. Nous pourrions parler de l'arrivée du royaume de Dieu ou de notre prière exaucée. Aucun d'entre nous ne voudrait que sa prière soit exaucée avant que Dieu ne le veuille. Nous voulons que sa volonté puisse en décider. Mais nous devons nous rappeler que les retards ne sont pas des refus parce qu'il peut faire quelque chose d'autre avec nous que nous ne comprenons pas. Allez au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Le Nouveau Testament, Romains, chapitre 8. Ne serait-ce pas facile si chaque prière, en supposant qu'elle soit conforme à la loi de Dieu, était un simple oui? Il suffirait de se mettre à genoux, d'avoir un petit téléporteur magique ou un générateur ou quoi que ce soit d'autre, et tout ce que l'on désire ou ce à quoi l'on pense, il suffirait de se mettre à genoux et de prier pour l'obtenir. Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle montre. Oh, regardez, la nouvelle montre. C'est le son que fera le téléporteur. Je n'avais pas réalisé que je faisais des voix aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme cela que cela se passe, n'est-ce pas? Ce n'est jamais aussi facile que cela. Romains, chapitre 8, verset 22. Nous commencerons au verset 22 de Romains 8, car nous savons que la création tout entière gémit et souffre ensemble jusqu'à présent. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption ou de la filiation, c'est-à-dire de la rédemption du corps. Car c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Mais une espérance qui se voit n'est pas une espérance, car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, car l'espérance entre en jeu, alors nous l'attendons avec patience. Si Dieu ne vous a pas encore répondu, c'est qu'il est peut-être en train de faire grandir en vous la patience. Si nous sommes quelqu'un de particulièrement faible en patience, quelque chose avec lequel nous luttons, vous, moi, qui que ce soit, cela peut ralentir la vitesse à laquelle Dieu répondra à la prière. C'est comme une dépendance, si l'on y pense en ces termes. Si quelqu'un essaie d'arrêter de fumer, il essaie d'étirer les distances de plus en plus loin pour se débarrasser du problème. Si notre problème est l'impatience, Dieu peut étirer la réponse à la prière de plus en plus longtemps jusqu'à ce qu'ils disent « Non, ils n'ont plus ce problème. Je peux leur répondre plus rapidement. » Donc, si nous sommes quelqu'un qui lutte avec la patience et que nous n'obtenons pas immédiatement une réponse à notre prière, nous devons travailler sur notre patience. Vous verrez que tout ce qui n'est pas un oui rapide, Dieu a un plan et un but pour le faire. Ces réponses ont toujours un but. Et je peux dire dès maintenant, si tôt dans le message, que Dieu répond toujours à la prière, toujours. Il ne manque jamais de répondre, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais encore une fois, c'est à nous de savoir comment il y répond. Mais si nous sommes patients, nous devenons plus efficaces, nous devenons plus semblables à lui. Finalement, s'il y a une réponse après une longue période de patience, que se passe-t-il? Votre foi se construit. Si vous avez prié, lutté, travaillé, prié, prié et prié sans jamais abandonner, et que votre prière est exaucée, cela construit bien plus la foi, que vous y avez mis tout votre cœur et toute votre âme, que si Dieu a simplement appuyé sur le bouton et que vous avez obtenu l'exaucement de votre prière alors que vous vous êtes relevé de vos genoux. Cela renforce la patience et la foi. Revenons à Lamentations. Faisons aussi quelque chose d'autre. Lamentations, chapitre 3, juste après Jérémie. Lamentations chapitre 3, et nous commencerons au verset 24. Je vous laisse le trouver. C'est l'un de ces petits livres cachés de l'Ancien Testament que nous ne consultons pas souvent. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent. Les choses sont retardées. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon qu'un homme espère et attende tranquillement le salut du Seigneur. Ce mot y disparaît presque, n'est-ce pas? Le salut du Seigneur. Si nous espérons et attendons le salut à cause d'une situation quelconque dans notre vie, d'une épreuve ou d'un test que nous vivons actuellement, en fin de compte, la finalité, le plan de Dieu pour vous et moi, c'est le salut. Frères et sœurs, si Dieu répond à votre prière par « pas encore », c'est qu'il a une vision plus large en tête. Si vous n'obtenez pas encore la réponse, Dieu travaille peut-être à quelque chose de plus grand que ce que vous réalisez. Bien souvent, lorsque nous nous trouvons dans des situations et que nous y repensons, vous et moi, et je l'ai vu dans le travail pendant des années, nous regardons en arrière et nous avons ces moments, et je me le dis tout le temps parce que c'est une bonne leçon d'humilité, que nous sommes des pions sur un échiquier. Nous ne sommes ni des chevaliers, ni des tours, ni des reines, rien de tout cela. Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier. Et parfois, nous avons l'occasion de regarder en arrière lorsqu'une situation se présente. Il peut s'agir d'un événement qui renforce la foi, d'un miracle, d'une prière exaucée. Et nous avons l'occasion de regarder en arrière et de voir, oh, d'accord, Dieu a fait bouger telle partie ici et telle autre partie là. Je pourrais revenir sur l'émission que nous venons de diffuser. Cela fait maintenant un an que nous donnons des conférences bibliques publiques. Cela nous a permis de nous améliorer dans l'utilisation des caméras, de l'éclairage, du montage, du travail et de tous les aspects que nous mettons en œuvre, en construisant des choses dans le studio, en étant capable de monter notre montage, parce que nous pensions que nous allions faire des conférences bibliques publiques. Dieu nous a dit, non, vous n'êtes que des pions sur l'échiquier. J'avais juste besoin d'acquérir des compétences ici, de travailler ici et de suivre une formation là, afin d'être prêt à tout mettre en œuvre lorsque je serai prêt à faire quelque chose. Donc, si vous attendez la prière, Dieu est peut-être en train de préparer quelque chose de plus grand. Et gardez-nous la patience. L'attente a aussi une autre fonction. Allez au chapitre 1 de Jacques. Livre de Jacques, chapitre 1, retour au Nouveau Testament. Là encore, nous examinons ce qui se passe lorsque la réponse à notre prière n'est pas encore arrivée. Ou lorsque Dieu nous dit, attendez. Jacques, chapitre 1, verset 1. Nous commencerons par le premier verset de Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous tombez en diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais la patience a son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien. Si vous demandez quelque chose et que le résultat de la patience est de ne rien vouloir, cela signifie que la chose que vous demandiez, vous l'avez reçue. Dieu dit donc, je vais répondre à tout ce que tu demandes, mais parfois je vais te faire attendre parce que cela va construire en toi et en moi la persévérance. Si vous devez vous mettre à genoux pour quelque chose qui vous tient à cœur et que vous priez jour après jour, Dieu vous dit peut-être, non, je veux que tu développes ta patience. Je veux que tu construises la persévérance. Revenons à ce que nous avons dit à propos de la patience. Si la persévérance est quelque chose avec lequel nous luttons, nous prenons les choses et nous les posons assez facilement pour passer à autre chose. Si nous constatons un retard dans nos prières, il se peut que Dieu nous dise, je vais utiliser cela pour développer la persévérance, la patience en toi. La voie de Dieu est simple. Vivre le christianisme n'est pas si simple parce que nous sommes sous l'autorité d'un être que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas entendre, que nous ne pouvons pas vraiment ressentir au sens des sentiments humains. Mais cet être doit nous diriger, nous guider et nous pousser, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, dans la direction qu'il voudrait que nous suivions. Ce n'est pas facile à faire. Et cela exige souvent que nous réfléchissions et que nous nous regardions nous-mêmes pour voir où nous sommes déficients. C'est ainsi que Dieu peut dire, « Ah, c'est pour cela que Dieu fait cela avec moi, c'est pour cela. » C'est la raison. Ensuite, nous devons revenir à « Oh, c'est vrai, le timing de Dieu est toujours parfait. » Le timing de Dieu est toujours parfait. Il connaît le moment, l'endroit, le moment où nous devons réussir, et quand ou comment nous devons réussir, ou comment répondre à la prière. Je regarde ma vie et je pense au moment où j'ai été appelé. Si j'avais été appelé 6 ou 8 mois auparavant, ou éventuellement 6 ou 8 mois après cette fenêtre, je n'aurais peut-être jamais reçu cet appel. Si je n'avais pas vécu et traversé des choses dans ma vie, je n'aurais peut-être pas répondu à cet appel. Alors, est-ce que je pourrais? Si j'avais été appelé 10 ans plus tôt, j'aurais eu de l'expérience dans l'Église mondiale de Dieu et j'aurais pu avoir un certain contexte. Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Parce que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous et qu'il savait probablement que... Je suppose que plus tôt t'aurait été, cela aurait été comme 16 ans si cela avait été 10 ans plus tôt. Mais je n'aurais probablement pas réagi. J'étais plus impliqué dans certaines choses. Ma vie m'occupait. Je faisais des choses, j'étais occupé, j'avais du succès. Je n'étais pas prêt à répondre à tous ces aspects de la vie. J'en vois donc les raisons. Mais aussi, humainement, nous pourrions être impatients, tout comme pour la prière. La prière finit aussi par se sentir plus personnelle. Parce que si vous regardez votre appel, c'est du passé. Ce pourquoi vous priez ou ce pourquoi je prie, c'est le moment présent. Parce que c'est un besoin, c'est un désir, c'est une épreuve, c'est un test. tous ceux qui nous mettent à genoux pour prier Dieu avec ferveur et dans le présent. Mais nous devons nous rappeler que le plan de Dieu est toujours conforme à son calendrier. C'est pourquoi le pas encore est parfois un moyen acceptable d'obtenir une réponse à la prière. Et quand c'est le cas, quelle est notre responsabilité? Car quelle que soit la réponse, vous et moi avons une responsabilité. Nous devons agir et avoir une attitude qui nous permet de recevoir cette réponse. Nous devons travailler dur sur les choses sur lesquelles nous pouvons travailler lorsque nous constatons que nous ne recevons pas de réponse. Trouver des moyens de croître spirituellement. Si Dieu nous dit d'attendre, examinez-vous. Je devrais m'examiner pour dire, où sont mes lacunes, Dieu? Qu'est-ce qui me fait défaut? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Lorsque quelqu'un est loin, nous disons, Dieu, laisse cette personne apprendre les leçons qu'elle doit apprendre pour que tu puisses la guérir. Il en va de même pour la prière. Dieu, aide-moi à voir les défauts de mon caractère pour que tu puisses répondre à ma prière. Nous devons le demander. Si nous ne recevons pas de réponse, nous devons demander à Dieu de nous montrer pourquoi. Lorsque le silence règne et que vous n'obtenez pas de réponse, repensez à l'époque, gardons la bonne attitude. Repensez au moment où vous l'avez fait. Car nous avons tous eu des moments où nous avons répondu à la prière dans notre vie. Parfois, c'est spectaculaire, et je ne sais pas si vous faites cela, et j'écris. J'ai tendance à créer des journaux, et je ne fais pas de journal dans ce sens, mais j'aime écrire des faits et des détails pour pouvoir m'en souvenir. J'ai commencé il y a des années et cela s'est transformé en une note unique et en diverses autres façons de documenter les prières exaucées dans ma vie ou les miracles, ou les choses qui étaient simplement des miracles dans le travail. J'ai donc pu regarder en arrière à certains moments. Et si je sens que ma foi est en baisse, que je suis découragé ou que je traverse une période particulièrement difficile, je peux revenir en arrière et lire les choses que Dieu a fait dans ma vie, les miracles que j'ai vus, les prières qui ont été exaucées dans ma vie. Et vous savez quoi? Cela vous ramène à la réalité et vous vous dites, d'accord, Dieu répond toujours à mes prières. Dieu répond toujours à mes prières. Je n'ai qu'à attendre. Revenons à Lamentations. Nous pourrions revenir en arrière d'un ou deux versets seulement par rapport à l'endroit où nous étions. Et cela correspond très bien à ce que nous venons de dire, car Dieu est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Si nous réfléchissons à ces exemples passés, nous le verrons. Lamentations, chapitre 3. Nous commencerons cette fois au verset 22. C'est le même chapitre, quelques versets plus loin que ce que nous venons de lire. Verset 22. C'est par la miséricorde du Seigneur que nous n'avons pas été consumés, c'est par sa compassion que nous n'avons pas failli. Pensez au Christ avec tous les milliers de personnes qui avaient faim. Verset 23. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Dieu sera fidèle. Mais il est peut-être en train de dire, vous savez quoi? Je veux que tu développes ta confiance en moi. Je veux que tu développes la patience, la persévérance. Je veux que tu te concentres sur ta propre croissance spirituelle parce qu'il y a quelque chose en toi ou en moi qui inhibe sa capacité à répondre dans l'instant. Et il veut construire cela en vous. Lorsque la prière a été exaucée ou que vous avez dû attendre, votre travail n'est pas celui de la personne qui se trouve actuellement dans cette situation. Mais si vous entendez parler de quelqu'un qui a prié pour quelque chose, qui a besoin de quelque chose, qui cherche à être guidé, et que vous avez vécu l'attente, que vous avez vécu la vie et que vous avez dû faire des prières qui n'en finissaient pas pendant une longue période, encouragez cette personne en lui faisant part de votre expérience. Encouragez cette personne en lui faisant part de votre expérience. C'est pourquoi nous formons tous une équipe. Pour que nous puissions travailler ensemble et nous édifier les uns les autres, il vous arrivera parfois que quelqu'un en face de vous dise « Cela fait si longtemps que je prie pour telle ou telle chose et Dieu ne semble pas me répondre. » Et c'est là que vous l'avez entendu. Vous êtes donc responsable, et moi aussi. Quand on vous dit « Non », il se peut que Dieu ne vous ait pas encore répondu. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Non seulement vous vous rapprochez de cette personne, mais vous l'encouragez et c'est peut-être ce qui la pousse à avoir plus de foi et à dire « Tu as raison. Dieu a raison. » Et cela peut lui permettre de répondre plus rapidement. Il arrive donc que la réponse à la prière soit « Pas encore. » C'est difficile. C'est difficile à comprendre. Mais celle-ci est difficile à accepter, car que faisons-nous lorsque la réponse de Dieu est « Non » D'accord. Je vais rester simple. Il n'y a pas de nom que vous allez entendre, mais cette porte s'est refermée. Cette opportunité d'emploi a disparu. Cette voiture a été vendue sous vos pieds. Cette épreuve ou ce test, ou quoi que ce soit d'autre, ne va pas disparaître. Dieu, enlève-moi cela. Non. Dieu, je veux ce travail. Montre-moi. Non. Quelles que soient les circonstances, parfois Dieu dit simplement non. Allez à 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. C'est un bon exemple. Peu importe à quel point vous êtes vertueux, parfois Dieu va dire non. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et nous commencerons au verset 6. Le verset 6 dit, « Quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais maintenant je m'abstiens, afin que personne ne m'estime plus qu'il ne me voit, ou qu'il ne m'entende, qu'il n'entende parler de moi, excusez-moi. » Verset 7, « Et pour éviter que je ne m'élève au-dessus de toute mesure par l'abondance des révélations de ce que Paul a vu lorsqu'il s'est vu lui-même, un futur être de Dieu. Dieu lui a donc donné quelque chose de très spécial. Une épine dans la chair m'a été donnée. Nous supposons qu'il s'agit d'un problème oculaire. C'est un messager de Satan, pour me troubler et m'empêcher de m'élever au-dessus de toute mesure. À cause de cela, j'ai prié le Seigneur trois fois, pour qu'il s'éloigne de moi. Alors, dans la prière, il l'a dit et redit, trois fois. Il n'a jamais dit à Paul, « Paul, ma grâce te suffit. » Paul n'a jamais entendu ces mots, mais Paul était aussi certain que la Bible est vraie que Dieu a répondu à sa prière par un non. Il poursuit, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma force s'accomplit. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses. » afin que la puissance du Christ repose sur moi. Dieu a dit non. Vous pouvez imaginer que Paul a cherché dans les Écritures un moyen de déterminer, Dieu, comment vas-tu répondre à cette question, ôter cette épine dans ma chair? Elle m'empêche de faire le travail que tu m'as donné à faire. La logique humaine, voudrait que Dieu élimine ce problème, n'est-ce pas? Paul est ce grand serviteur. Il voyage. S'il avait des problèmes avec ses yeux ou quoi que ce soit d'autre, cette épine dans la chair l'empêchait de faire son travail. Alors, bien sûr, Dieu lui aurait répondu, mais Dieu a dit non, parce que c'est parfois ce que Dieu nous dit, mes frères. Parfois, il dit simplement non. Mais le verset en dit long en lui-même. Reprenons la lecture du verset 9. Ma grâce te suffit, car ma force. La force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu a vu en Paul le potentiel de s'élever à cause de ce qu'il a vu. Mais il a dit, non, Je vais te donner une faiblesse. Je ne vais pas répondre à cette prière, tu as besoin de cela. Je ne changerai pas la situation parce que la force de Dieu est parfaite dans la faiblesse humaine. C'est donc très volontiers que, dit Paul, je préfère me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Cela a poussé Paul à s'appuyer plus profondément sur Dieu. Parfois, Dieu dit non parce qu'il veut que nous nous appuyions plus profondément sur lui. D'autres fois, Dieu dit non à cause des circonstances. Pensez à David qui voulait construire le temple. Il avait du sang sur la main et Dieu lui a dit, « Non, c'est ton fils qui le construira. » Mais c'est un homme qui voulait vraiment le construire. Il en a eu l'idée. Dieu l'a mis dans son esprit, il a rassemblé toutes les pièces et tous les morceaux, et Dieu lui a dit, « Non, tu ne peux pas le construire. » Pouvez-vous imaginer à quel point il était découragé à l'époque? Nous ne pouvons lire que ce que nous lisons dans la Bible. Parfois, nous ne recevons que la version abrégée, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Combien de fois nous sommes-nous trouvés dans une situation où nous avons été corrigés ou un parent nous a dit « Non, nous ne disons pas immédiatement « Oui, j'apprends et je grandis. » Non, il y a parfois un peu de bouderie, n'est-ce pas ? Une petite déception. Vous pouvez imaginer que David a ressenti cela à ce moment-là, mais en fin de compte, il a vu un plus grand objectif dans ce qui s'est passé, parce que non signifie que Dieu voit quelque chose que vous ne voyez pas. Si la réponse est non, ce n'est pas un rejet de notre part, c'est l'expression de la sagesse de Dieu parce que nous ne pouvons pas voir ce qu'il voit. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Voyons cela exactement dans Ésaïe 55. Vous pouvez tourner là. Ésaïe, chapitre 55. Je l'ai cité, mais il est bon de le lire. Verset 6 d'Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le quand il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, et il aura pitié de vous, et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Dieu nous pardonne. C'est très facile pour lui de le faire, mais parfois nous obtenons la réponse que nous ne voulons pas parce que, au verset 8, car mes pensées, les pensées de Dieu, ne sont pas vos pensées. Nous ne sommes que des pions sur cet échiquier et parfois, même si nous voulons qu'il n'en soit pas ainsi, nous serons toujours des pions sur l'échiquier. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car, comme le ciel est plus haut que la terre, mes voix sont plus hautes que les vôtres. C'est une bonne distance. Peu importe que nous parlions de la terre et du premier ciel, du deuxième ciel ou du troisième ciel. Dans l'univers, les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Même nous, les êtres humains qui vivons et suivons ce mode de vie, qui avons l'Esprit de Dieu. Même nous, nous sommes à ce point en dessous de Dieu dans nos pensées et dans nos manières de faire. Nous essayons d'être plus semblables à lui, bien sûr, mais encore une fois, il voit les choses en arrière à un degré que nous ne voyons pas. C'est lui qui prend du recul par rapport à l'échiquier. Il observe l'ensemble du jeu et voit où il va et comment il est le mieux résolu et gagné. Dieu voit le tableau d'ensemble de nos vies et, parfois, le fait de recevoir un nom nous fait changer d'orientation, nous réoriente. Parce que parfois, un nom nous protège aussi. Un nom peut vous protéger. Il arrive souvent qu'une porte se ferme, et si vous avez expérimenté, si vous avez vécu ce mode de vie pendant un certain temps, vous comprenez que Dieu va parfois claquer cette porte, cette prière fermée, « Dieu, merci pour ce travail. J'ai ce merveilleux travail. Peux-tu m'ouvrir cette porte ? J'ai un entretien d'embauche. J'y vais demain. Dieu, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir, car je veux vraiment ce travail. Et vous arrivez à l'entretien d'embauche où vous le ratez ou ils appellent et annulent. Vous vous dites, pourquoi Dieu ferait-il cela? Il sait que j'ai besoin de travailler. Il sait que je dois payer la dîme. Pourquoi dirait-il non à une grande opportunité? Nous sommes loin de nous douter, tout comme la personne dont nous parlons, qu'il aurait pu y avoir un problème avec le sabbat. Il y avait peut-être quelque chose d'autre dans le travail qui aurait fait s'effondrer notre capacité à obéir à Dieu. Ou bien nous allons retourner chez le concessionnaire et acheter la voiture. J'ai cette Mustang que je veux vraiment acheter. Elle est jaune canari et elle a un gros moteur. Voilà le volume de mes connaissances en matière de voiture. Je vais chez le concessionnaire, il l'allume et fait tourner le moteur. Boum! Et il se dit, oh, oh là là, c'est la voiture que je veux. Pendant ce temps, les fonds sont rouillés, je n'ai aucun concept, et la personne dit, ce n'est pas forcément moi, je n'ai jamais voulu d'une Mustang de ma vie, juste à titre de référence. Mes voitures sont très petites, et si elles pouvaient être électriques, ce serait amusant, mais je m'éloignais du sujet. Mais il se passe quelque chose dans l'affaire. Quelque chose se passe avec le financement. Vous n'êtes pas en mesure d'obtenir ce véhicule ou d'y ouvrir une porte et vous la menez à un endroit. Oh non, cette voiture est un citron, vous ne serez jamais en mesure de la conduire, vous l'aurez pendant une semaine et elle disparaîtra. Dieu a dit non. Il l'a fermé. Il a fermé cette porte. Frères et sœurs, les noms sont parfois difficiles à accepter. Ils ne sont pas comme les autres et vous gardez espoir. Le non est une décision. Et nous devons être capables de regarder Dieu, de lui parler, de le prier, d'étudier sa parole et d'accepter les refus. Parce que dans ce cas, il se passe quelque chose d'autre que nous ne voyons pas. Reprenons le chapitre 4 de Jacques. Jacques, chapitre 4 et verset 1. Nous commencerons par le premier verset de Jacques 4. D'où viennent les guerres et les combats parmi vous? Ne viennent-elles pas de vos convoitises qui s'affrontent dans vos membres? Vous convoitez, et vous n'avez pas. Vous tuez, et vous désirez avoir, et vous ne pouvez obtenir. Vous vous battez et vous guerroyez, mais vous n'avez rien, parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Vous ne priez pas à ce sujet. Vous ne demandez pas à Dieu. Mais il arrive que l'on demande et que l'on ne reçoive pas. Vous obtenez un non pour réponse. Parce que vous demandez mal, afin d'assouvir vos désirs. Comment cela s'accorde-t-il avec un non? Frères et sœurs, parfois un non nous dit que notre pensée n'est pas conforme à la volonté de Dieu. En d'autres termes, un non ouvre la porte à la croissance spirituelle. Car si nous avons besoin de grandir dans un domaine particulier, c'est que nous ne sommes pas comme Christ dans ce domaine particulier, ou du moins pas assez. Nous manquons de quelque chose, d'amour, d'espérance, de tous les, vous passez en revue les fruits de l'esprit. Il y a quelque chose en quoi nous sommes déficients, et Dieu nous donne un non, non pas parce que c'est nécessairement quelque chose qui serait mauvais pour nous, mais parce qu'il dit, c'est une chance pour toi de grandir. Tu n'es pas tout à fait aligné sur ma volonté, sur mon but. Le non nous pousse à examiner nos désirs et nos motivations. Lorsque nous disons, vous savez quoi, je prends cela, comme le dit le verset, afin de le consommer pour mon propre plaisir, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un désir. Je le convoite, alors Dieu, je l'ai demandé, non pas à cause d'un besoin ou même d'une envie. C'est parce que je le désirais. Tu as dit non. Je me suis examiné et j'ai réalisé qu'il y avait des aspects de mon caractère qui devaient changer. Le nom peut être une invitation à grandir spirituellement. Nous sommes difficiles, mais ne le prenez pas personnellement, car Dieu a même dit non à son Fils. Donc, chaque fois que nous nous sentons un peu battus parce que Dieu a dit non à une prière, allez à Matthieu 26. Il a l'habitude de dire non à des gens qui méritent un nom bien moins grand que nous. Matthieu, chapitre 26. 26 et le verset 37. Matthieu 26 et verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et à être très accablé. Le moment du sacrifice du Christ, il allait être mis en croix, il allait être battu, tout cela était devant lui. Il leur dit, « Mon âme est extrêmement triste, jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez avec moi. Gardez l'œil ouvert pendant que je vais faire quelque chose. » Il monta encore un peu et tomba sur sa face. C'est Christ. Il tomba sur sa face et pria, disant, « Ô mon Père, s'il était possible. » Il demande, il supplie sur son visage, que cette coupe s'éloigne de moi. Christ a dit, « Puis-je, s'il vous plaît, ne pas avoir à subir cela ?» Parfois, nous négligeons les composantes humaines de Jésus-Christ lorsqu'il a vécu cette vie en tant qu'être humain. Pouvez-vous imaginer que vous saviez à l'avance que vous alliez être battu, torturé, suspendu à une croix, que vous alliez mourir, et que vous connaissiez l'ordre dans lequel tout cela allait se dérouler? Vous étiez un être qui vivait en dehors de l'espace et du temps. En théorie, il aurait pu voir ce qui allait se passer avant même d'en faire l'expérience. Qu'est-ce que cela aurait donné? Il a donc supplié Dieu. Je ne veux pas faire cela. Si je ne suis pas obligé de le faire, puis-je ne pas le faire? Cependant, poursuit le verset, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux, ce qui est en fin de compte ce que nous voulons et ce que Christ recherchait. Et Dieu a dit, non, il faut que tu fasses cela. C'est le nom le plus difficile à prononcer de tout l'univers. Aucun des noms que nous avons reçus n'était comme celui-là. Et Christ l'a accepté. Tout comme lorsque nous recevons un nom de Dieu, nous devons l'accepter. Nous devons voir le pourquoi, comprendre et tirer les leçons d'un nom. Savez-vous ce qu'il fait? La première chose qu'il fait lorsque nous recevons un nom, il redéfinit notre confiance en Dieu. Cela peut être positif ou négatif. Si nous le prenons et que nous disons, non, Dieu, c'est qu'il est sage. Il a un but. Il guide ma vie. Il a dit non pour une raison. C'est très différent de dire Dieu a dit non, il s'en fiche. Ce sont deux chemins très différents que nous pouvons emprunter lorsque nous recevons un nom. Un nom est donc un test lorsque Dieu le fait. Il nous met au défi de lui faire confiance parce que, encore une fois, il ne se tient pas au-dessus de notre épaule. Nous ne sommes pas en mesure de lui parler au téléphone ou d'envoyer un courriel ou tout autre moyen de communication. Si la banque nous refuse un prêt, vous pouvez prendre le téléphone et appeler le banquier pour lui dire « Pourquoi m'avez-vous refusé un prêt ? Mon crédit est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi avez-vous refusé ? J'attends une réponse. » On ne peut pas faire cela avec Dieu. On obtient la même réponse. Nous devons l'accepter. Mais il faut ensuite en chercher la raison, car nous pouvons en tirer des leçons. Allons au chapitre 3 des Proverbes. Proverbes, chapitre 3. Passons un peu plus de temps sur la section du nom, parce que c'est une section difficile. Proverbes, chapitre 3 et verset 4. Verset 4 du chapitre 3 des Proverbes. C'est ainsi que tu trouveras grâce et bon sens aux yeux des hommes. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies. Et ensuite, il dirigera tes sentiers, même quand tu dis, non, je veux aller à droite, je veux aller à droite. Dieu, si on le laisse faire, peut dire, non, tu dois aller à gauche. On peut prier, Dieu, je veux aller à droite. Nous pouvons jeûner pour aller à droite. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons parce que nous voulons aller à droite et que Dieu dit, non, tu dois aller à gauche. Nous devons être capables de dire, d'accord, Dieu, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas particulier. Je vais m'examiner et voir si je peux le comprendre, mais d'accord, parce que j'ai confiance en toi. Tu as un but dans ma vie et, en fin de compte, tu veux me voir dans la famille de Dieu. Une autre chose que nous pouvons apprendre. Parfois, un nom nous aide à recadrer nos désirs. Dans l'Ancien Testament, passons au psaume. Psaume 37. Parfois, un nom nous aide à recadrer nos désirs. Qu'est-ce que je veux dire par recadrer? Oh, encore une fois, notre demande, notre prière, notre désir n'est peut-être pas quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas fous. Si vous vous mettez à genoux et que vous dites, Dieu, la journée a été difficile. Cette personne au travail a été vraiment difficile. Demain, est-ce que je pourrais l'assassiner? Nous n'allons pas demander cela à Dieu ou tout autre péché direct. Nous ne le demandons pas à Dieu, mais parfois notre volonté ne s'oppose pas à Dieu. Parfois, c'est le cas, mais souvent, elle ne s'oppose pas à ce que Dieu fait. Il se peut simplement que notre volonté ne suive pas le même chemin que ce qu'il voudrait dans notre vie. Ainsi, lorsque nous recevons un refus, cela peut nous arrêter et nous faire réfléchir, vous savez quoi? Est-ce que ma façon de vivre est conforme à ce que Dieu veut? Ma demande est-elle alignée sur sa volonté? Vous êtes dans le psaume 37. Nous commencerons au verset 3. Confiez-vous en l'Éternel et faites le bien. C'est ainsi que tu habiteras dans le pays et que tu seras nourri. Délectez-vous dans le Seigneur et il vous donnera les désirs de votre cœur. Plaisir de l'Éternel, confiance en l'Éternel. Et enfin, confiez votre voix à l'Éternel. Aie confiance en lui. Encore la confiance. Et il l'accomplira. J'aime ces affirmations de la Bible qui ne sont pas difficiles à comprendre ou floues. Quand il est simplement dit, si nous faisons ces choses, si nous nous engageons, si nous prenons plaisir, si nous avons confiance, si nous avons confiance de foi, il fera en sorte que cela arrive. Donc, si nous avons reçu un non, il nous manque une de ces conditions, n'est-ce pas? Sinon, il dit qu'il va faire en sorte que cela se produise. Lorsque cela se produit, nous devons examiner notre vie, notre relation avec notre Créateur, revenir en arrière et nous dire, qu'est-ce qui me manque? Ou ne suis-je pas aligné avec la volonté de Dieu? Et lorsque vous le faites, que vous vous engagez, que vous faites confiance, que vous obéissez et que vous alignez notre volonté sur la sienne, Dieu promet qu'il fera en sorte que cela s'accomplisse. Une autre leçon que nous pouvons tirer d'un nom. Le nom est difficile à recevoir parce que personne n'aime l'entendre. Le problème dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les enfants grandissent en n'entendant pas de langue ou que les adolescents n'entendent pas de nom, puis ils vont travailler et deviner ce que les employeurs disent. Non. Monsieur l'employeur, j'aimerais que mon salaire soit triplé. Non. Et sonnez, sonnez, sonnez. Vous êtes le parent de qui? Pourquoi m'appelez-vous? Parce que les enfants sont tellement brisés et fragiles aujourd'hui, et pas nos enfants, qui n'entendent pas le nom et ne sont pas capables de gérer le monde qui les entoure. Dieu nous fait donc commencer très tôt et nous dit, « Je vais vous enseigner le nom parce qu'il vous aide à grandir. » Une autre leçon du nom, c'est qu'il nous enseigne l'humilité. Si nous marchons en pensant, « J'ai réglé cette histoire de christianisme, je traverse la vie, je me débrouille bien, Dieu répond à mes prières. » Vous savez quoi? Je suis plutôt bon dans ce domaine. Et puis on reçoit un nom et on se dit, oh, peut-être que je fais quelque chose de différent. Mais cela ne nous rend pas seulement plus humbles, cela nous rend plus humbles, cela nous permet aussi de vérifier si nous allons nous soumettre à Dieu. Car vous savez ce que vous pouvez faire? Désobéir à Dieu. Nous ne vivons pas dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas d'être à notre gauche et à notre droite qui nous force à aller dans la direction que nous devrions prendre ou qui peuvent nous conseiller immédiatement. Dieu nous donne des cordes parce que nous sommes formés pour devenir des leaders. Il veut que nous soyons capables de prendre des décisions justes. Dieu permet donc un nom pour voir si nous nous soumettrons à sa décision. Je continue à utiliser l'analogie avec la voiture. Vous entrez chez le concessionnaire et Dieu vous ferme la porte en vous faisant découvrir que cette voiture est un taco. C'est un citron. Ce ne sera pas la bonne. Mais vous savez ce que nous pouvons faire? Nous pouvons être stupides et dire, « Vous savez quoi, monsieur le concessionnaire? J'aimerais l'acheter quand même si Dieu a fermé la porte. » Il nous teste donc pour voir si nous nous soumettons humblement à lui. Une autre leçon que nous pouvons tirer d'un nom est qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand. Un nom nous prépare à quelque chose de plus grand. Vous pouvez vous reporter au chapitre 3 des Éphésiens. Un nom nous prépare à quelque chose de plus grand, tout comme un enfant qui a besoin d'entendre un nom lorsqu'il grandit, afin qu'il puisse faire face aux revers, aux épreuves, à tout ce qui se présente à lui, car la vie n'est pas faite de oui et de rembourrage. Lorsque Dieu nous oppose un refus dans la prière, nous sommes préparés à quelque chose de plus grand. Éphésiens, chapitre 3, je devrais aussi me tourner vers ce chapitre. Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Commençons par le verset 18. Nous pouvons comprendre avec tous les saints ce qu'est le souffle qui saute dans le contexte ici, c'est-à-dire la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, c'est à lui, qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, qu'il faut s'adresser. Vous vous souvenez que l'image ultime de Dieu est de nous donner le salut? Il y a une puissance en nous qui essaie de nous changer, de nous faire grandir et de nous développer. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille avec notre esprit pour changer notre caractère. Et ce changement, c'est parce que Dieu construit quelque chose en nous. Son caractère saint et juste. Il construit en nous la capacité de gouverner l'univers. En vous et moi, il y a cette graine de quelqu'un qui peut être un être de Dieu, mais nous ne pouvons pas le faire à moins d'être testé, préparé, fortifié, endurci, tempéré. Dieu le fait en disant parfois non. Alors, comment devons-nous répondre à un non, tout comme nous devions répondre d'une certaine manière à l'attente ou au pas encore? Frères et sœurs, nous devons le faire avec humilité. Nous ne pouvons pas résister. Nous ne pouvons pas être amers. Nous ne pouvons pas tourner notre esprit dans la direction que nous voulons, quoi qu'il arrive. C'est comme si vous recherchiez le conseil du ministère parce que Dieu peut, nous parlons de sa réponse aujourd'hui, pas de la façon dont il vous répond. Ce sont des choses très différentes. C'est aussi différent que lorsque nous parlons de la façon de prier que de la façon dont nous recevons sa réponse. Mais même recevoir sa réponse n'est pas la même chose que la façon dont il vous répond. Parce que Dieu peut vous répondre à travers son ministère, à travers la parole de Dieu que vous étudiez, à travers vos frères. Il peut vous répondre par l'intermédiaire d'un collègue de travail ou de quelque chose que vous trouvez sur Internet. La manière dont Dieu vous répond est très différente de l'acceptation et de l'écoute de la réponse. Probablement plus que tout autre endroit, c'est là que Dieu vous répondra, à vous ou à moi, que nous sommes mis à l'épreuve par un homme ou par toute autre situation. Vous pourriez être en train de prier à propos de quelque chose, et puis vous cherchez le conseil de son ministère. Et vous savez ce qui est vraiment facile à faire? Il est facile pour nous de dire non à un conseil, même si nous le recherchons. Parce que parfois nous allons dans des situations de conseil où nous sommes ceux qui cherchent le conseil avec la réponse que nous voulons déjà. J'ai fait plusieurs consultations matrimoniales, et plus récemment une consultation matrimoniale. Et dans ce conseil matrimonial, ou dans tous les conseils matrimoniaux que je fais, je commence par vous demander si vous avez tous les deux pris la décision de vous marier. Si c'est le cas, je ne les laisse pas répondre parce que leur réponse serait oui. Parce qu'ils ont besoin de la question, sinon ils ne seraient pas en train de conseiller le mariage. Mais j'ai dit que si c'est le cas, la consultation est inutile parce que le but de cette consultation n'est pas de vous empêcher de vous marier, mais de vous permettre d'y aller les yeux grands ouverts pour savoir et vous pourriez voir des choses qui vous amèneront à décider que vous ne voulez pas vous marier. Si nous allons au ministère de Dieu, nous prions et demandons à Dieu de nous montrer ce qu'il faut faire, alors nous voyons les conseils du ministère. N'oubliez pas que nous parlons ou essayons de parler comme les oracles de Dieu. Excusez-moi. Lorsque nous parlons, nous voulons vous apporter ce que Dieu dit dans sa parole. Si vous ou moi ignorons ce conseil et disons que ce conseil, excusez-moi, si ce conseil est un non à ce pourquoi vous avez prié, il est beaucoup plus facile pour nous de dire, « Oh, le ministre avait tort, parce qu'aucun d'entre nous en tant que chrétien ne va dire, « Oh, eh bien, Dieu avait tort. » Mais par son ministère, il peut vous donner ce nom. Mais comme je l'ai déjà dit, la façon dont nous obtenons une réponse est très différente de celle dont nous l'obtenons. Nous devons l'accepter avec humilité. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. C'est un exemple de non, mais pourquoi? J'accepte le nom, Dieu, mais pourquoi? C'est l'occasion de chercher et de réfléchir à sa volonté. Et en même temps, lorsque nous recevons un nom, nous devons nous demander ce que nous pouvons apprendre de ce nom. Où devons-nous progresser spirituellement? Ne sommes-nous pas assez patients? Devons-nous dépendre davantage de Dieu? Y a-t-il quelque chose d'autre qui nous manque dans notre vie? En fin de compte, nous devons faire confiance à Dieu pour ce qui est de notre attitude lorsque nous recevons un refus. C'est une question difficile. L'ironie, c'est que cela n'arrive pas si souvent. Le mode de vie de Dieu, si vous l'avez vécu, vous n'obtenez souvent pas de non à la prière. On vous répondra souvent oui, mais, parce que, encore une fois, rappelez-vous, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Ainsi, lorsque nous recevons la réponse, c'est très rarement un non catégorique. Encore une fois, si vous vous levez, si vous rentrez chez vous ce soir, vous vous dites, « D'accord, je le sais. Dieu, puis-je avoir la permission de mentir demain, de tuer ou de prendre ton nom en main ?» Restons en audit commandement, c'est un non catégorique. Mais souvent, nous ne recevons pas de non catégorique. C'est généralement l'attente où je répondrai à votre prière d'une manière inattendue. C'est à ce moment-là qu'il faut les noter et se dire, « Oh, il m'a répondu et j'ai obtenu ceci, ceci et cela, Et l'autre chose à laquelle je n'avais même pas pensé parce qu'elle naviguait jusqu'ici, mais oh, oui, c'est vrai, je suis un pion sur l'échiquier. Soyez donc prêt à recevoir une réponse. La deuxième est le non. C'est presque le plus difficile, car il vous fera douter. Quand est-il lorsque la réponse de Dieu est le silence? Quand est-il lorsque la réponse de Dieu est le silence? Encore une fois, nous n'entendons pas de voix audible de la part de Dieu, mais vous pouvez presque vous imaginer, vous dites, « Dieu, peux-tu m'aider à obtenir ce travail ?» Et si vous êtes dans une conversation, vous avez déjà participé à ces conversations et les gens sont maladroits, ou ils ont des yeux de tarte, ou peu importe la situation, mais imaginez deux personnes qui discutent entre elles et qui disent « Oh, il fait vraiment beau et vous vous portez bien. Avez-vous obtenu ce nouveau travail ?» Et la personne vous regarde. Comme si ce n'était que 3 ou 4 secondes. Si on pouvait juste s'asseoir ici. C'est de plus en plus inconfortable au fur et à mesure que le temps passe. C'est plus inconfortable pour moi que pour vous. Mais ce n'est pas comme cela qu'une conversation, on ne reste jamais en silence. Mais que se passe-t-il si la réponse de Dieu est le silence? Vous allez immédiatement réfléchir. Vous allez penser que Dieu vous ignore ou que Dieu n'est pas impliqué dans ma vie ou que pourquoi Dieu ne me répond pas. Vous n'êtes pas seul. Retournez au livre des psaumes, au psaume 13. Parfois, le meilleur outil de conseil de la Bible lorsque nous sommes dans une situation difficile est de trouver quelqu'un dans la Bible qui vit ou a vécu une situation similaire. Il y a de grands personnages qui ont vécu au cours des 6000 dernières années. C'est un psaume de David. Psaume 13, premier verset. Psaume 13, verset 1. Jusqu'à quand m'oublieras-tu, ô Seigneur? Même David s'inquiétait parfois, car il s'agit d'un chant ou d'une prière. Dieu, il est à genoux, vous pouvez l'imaginer dans votre esprit. Dieu, combien de temps vas-tu m'oublier? Est-ce que je te parle au moins? Entends-tu mes prières? Parce que Dieu dit qu'il n'entend pas certaines prières parce que c'est une odeur nauséabonde dans son nez. Ceux qui ne lui obéissent pas. Si nous pensons que Dieu ne nous entend pas, nous nous disons, d'accord, ai-je perdu mon lien avec Dieu? Dieu, combien de temps vas-tu m'oublier? Pour toujours? Le verset continue. C'est un homme qui a peur. Si Dieu se tait sur nous, que faisons-nous? Combien de temps me cacheras-tu ta face? Jusqu'à ce que je prenne conseil en mon âme, et que mon cœur soit chaque jour dans la tristesse. Combien de temps mon ennemi sera-t-il élevé au-dessus de moi? On peut presque imaginer une époque où il s'oppose à Saül, et où sa réponse est « Vais-je devenir roi? Ne vas-tu pas me faire roi? » Et il a dit « Non. Attends. Non, attends. » Et à un certain moment, « Non, attends », David a pu commencer à se dire, « Est-ce que Dieu ne me répond même pas ?» Verset 3, « Considère et écoute-moi, Seigneur, mon Dieu. » Dieu n'a jamais abandonné David. Tout comme, frère, Dieu ne nous abandonne jamais. Ce silence peut indiquer quelque chose de beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. S'il s'agit d'une épreuve, d'un test, c'est différent. Mais quand il s'agit d'un désir ou d'une envie, parce que souvent, ce pourquoi vous et moi prions, ce sont des désirs et des envies. Nous avons tous nos tests, nous avons tous nos épreuves. Mais la plupart du temps, il s'agit de désirs et de souhaits quand il s'agit de situations où Dieu répond à la prière. Il peut s'agir d'un emploi, de choses importantes. Il peut s'agir de quelque chose de crucial dans notre vie. Je ne minimise pas ce que c'est, mais en général, il ne s'agit pas d'épreuves ou de tests. Il s'agit d'un autre type de prière, et il arrive que l'on veuille aussi qu'elle soit exaucée. Mais ce dont nous parlons, c'est plutôt des désirs, des besoins, des envies. L'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un silence, c'est que nous l'avons déjà. Il se peut que nous demandions quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Et Dieu dit, « Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus. Avec tout ce que nous avons, nous devrions être satisfaits. » Et si c'est un conseil que nous recherchons, Dieu peut dire, « Tu as tous les outils dont tu as besoin. » Vous demandez, « Dieu, aide-moi à me sortir de telle ou telle situation. » Et il semble qu'il y ait un silence. Mais étudions-nous notre Bible, examinons-nous ce que nous vivons. Dieu dit, « Je vais me taire sur cette question parce que vous devez lire la parole de Dieu. Mon silence a pour but de vous pousser à lire le livre. C'est ainsi que tu obtiendras la réponse pour moi. Si nous n'étudions pas, nous ne pouvons pas entendre Dieu. Ce sera le silence. C'est pourquoi la prière doit être étroitement liée à l'étude de la Bible. Si nous nous contentons de prier Dieu sans étudier sa parole, nous recevrons une réponse silencieuse parce que nous ne le laissons pas parler. Nous disons que nous voulons être ceux qui parlent. Nous allons parler à Dieu. Nous allons lui demander, « Dieu, j'attends de toi que tu fasses quelque chose de divin. » Pouf. Non. Nous devons entrer dans sa parole si nous voulons entendre ses mots, sa réponse. Nous devons étudier le livre. Sinon, la réponse que nous obtiendrons sera le silence. Et il ne s'agit pas seulement du livre, mais aussi des conseils du ministère. Parce que parfois Dieu laisse quelque chose se dérouler pendant un certain temps parce que nous savons en quelque sorte quelle est la réponse. Ou bien nous ne savons pas exactement comment gérer une situation, mais nous allons prier à ce sujet. Dieu, résous-la. Peux-tu résoudre cette situation? Dieu, quelle que soit la situation, résous-la. Et il dit, et vous n'obtenez rien. Parce que soit nous n'étudions pas la parole, soit nous ne cherchons pas conseil. Il dit, vous avez les outils. Il suffit d'utiliser les outils. Si vous avez du mal avec telle ou telle doctrine, c'est facile quand dans ce contexte vous pensez, « Je ne comprends pas bien ce que sont les jours saints. » Eh bien, vous avez les outils. Étudiez, creusez, étudiez la Bible, étudiez la littérature ou telle doctrine. Dieu peut donc être silencieux si nous ne faisons pas notre part du travail. Il faut que ce soit une conversation. Une conversation n'est pas à sens unique. Nous avons tous côtoyé des personnes qui sont très douées pour parler, mais particulièrement mauvaises pour écouter. Dans un groupe de personnes, certaines peuvent parler, 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 parler. Il peut s'agir d'une personne qui parle bien, qui raconte des histoires, etc. Mais c'est alors à votre tour ou à votre tour de dire quelque chose. Vous prononcez deux ou trois mots et les autres se mettent à parler par-dessus vous. Très vite, vous savez ce que vous faites? Probablement ce regard sur leur visage aussi. Vous restez là, en silence. C'est ce qui se passe si nous ne laissons pas Dieu nous répondre lorsque nous lui parlons dans la prière. Autre chose, parfois, quand il y a un silence, Dieu travaille en arrière-plan, il n'est pas encore prêt à vous répondre. Cela peut aussi arriver. Allez à Ésaïe 64, Ésaïe chapitre 64. Je pense que tout le monde a eu un micromanager comme manager à un moment ou à un autre de sa vie. Et j'en ai eu quelques-uns de vraiment extrêmes. Il voulait des contrôles à chaque étape d'une tâche et cela vous rendait fou. Alors, quand c'est lui qui fait, il se dit, « Oh, comment cela va ? Je suis 3% plus avancé qu'il y a 2 minutes. Quand on est microgéré, on ne peut rien faire. Parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il fait avancer les choses. Le chapitre 64 d'Ésaïe, nous ne le comprenons pas. Verset 4, Ésaïe 64, et verset 4, « Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu. Nous ne sommes pas particulièrement doués pour entendre. Je ne sais pas s'il s'agit des hommes ou des hommes en tant que personnes, mais prenons les personnes. Mais les hommes n'ont pas entendu ni perçu par l'oreille. Ils n'ont pas vu de l'œil. Nous sommes donc aveugles et sourds. Ô, Dieu, à côté de toi. Ce qu'il a préparé pour celui qui l'attend. Parfois, nous n'entendons pas Dieu. Nous ne le voyons pas parce qu'il se prépare. Il prépare ce manoir pour que nous puissions la voir. Il aligne les pièces de l'échiquier pour répondre à notre prière. C'est pourquoi nous avons le silence. Parfois, ce silence est dû au fait que nous avons commis des erreurs, mais parfois, ce silence est dû au fait qu'il est en train de faire quelque chose et qu'il répond vraiment par pas encore. Ces deux éléments peuvent se confondre très étroitement. Mais le silence ressemble parfois, et c'est généralement lié au fait que nous ne faisons pas notre part de l'équation. Alors pourquoi le ferait-il? Pourquoi Dieu permettrait-il le silence? Parce que c'est décourageant, n'est-ce pas? Nous prions et nous n'obtenons rien. Allez à Jérémie 29. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées qui vous animent. Verset 11. Dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur. Pour vous donner une fin inattendue. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier, je vous écouterai, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Parfois, frères, nous n'obtenons pas de réponse, nous obtenons le silence parce que nous ne sommes pas sérieux dans notre prière. Il est amusant de regarder et d'aider un petit enfant à apprendre à prier parce qu'il y a des parties qui changent à chaque fois. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et il y a des parties qui sortent comme une mitrailleuse parce qu'elles sont mémorisées. En tant qu'adultes, nous pouvons également tomber dans ce schéma. Nous pouvons tomber dans un schéma où il y a certaines choses que nous disons simplement, presque à la sauvette. Et Dieu dit, « D'accord, si tu ne le prends pas au sérieux, moi non plus. » Alors parfois Dieu ne nous répond pas. Parfois c'est le silence parce que nous avons besoin de mettre tout notre cœur dans la demande. Cela nous renvoie à nos genoux pour prier avec plus de ferveur. C'est la prière fervente d'un homme juste qui rapporte beaucoup, et non la prière tiède d'un homme juste ou une prière légère ou une prière rapide. Nous devons prier sans cesse. Nous prions dans tous les aspects de notre vie lorsqu'il y a un besoin. Parfois, les prières sont rapides, mais elles devraient être significatives et profondes, et nous devrions nous préoccuper du fait que lorsque vous et moi nous agenouillons, pensez-y de cette façon, lorsque vous et moi nous agenouillons, nous nous présentons devant le Dieu de l'univers. Êtes-vous nerveux lorsque vous vous retrouvez devant une personne d'autorité? Les gens viennent dans mon bureau. C'est parfois drôle. Ils entrent dans mon bureau et la première chose que je leur dis est « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'ennui. » Parce qu'ils ont toujours l'air de se dire « Est-ce que j'ai des problèmes ?» Je le sais parce que je suis déjà passé par là. Oh, j'ai des ennuis. Non, non, tu n'as pas d'ennui. Mais vous et moi réagissons tous de la même manière avec les personnes qui sont au-dessus de nous. Mais parfois, lorsqu'il s'agit de prier, nous nous présentons devant le Dieu de l'univers. Et ne sommes-nous pas parfois un peu désinvoltes dans nos prières, de nos demandes? Sommes-nous en train de creuser profondément de tout notre cœur lorsque nous nous présentons devant Dieu? et demandons-nous des choses au plus profond de notre être pour qu'il sache que nous les voulons. Dieu n'est pas du genre à dire « essayez encore ». C'est pourtant ce qu'il fait, mais il le fait en silence. Non, vous pouvez faire mieux que cela. Parfois, vous avez une drôle d'attitude, nous entrons dans la maison, où quelque chose est dit, comme « non, essayez encore ». C'est ce que Dieu dit lorsque nous nous présentons devant lui et que nous ne mettons pas tout notre cœur dans ce que nous demandons. Une autre chose qu'il peut faire avec le silence, Deutéronome chapitre 8. Il teste peut-être notre foi et notre engagement. Retournez là. Une fois que vous aurez basculé, le chapitre 8 du Deutéronome, nous commencerons au verset 1. Mais Dieu peut être silencieux parce qu'il teste notre foi et notre engagement. C'est plus difficile de s'engager quand on n'a pas de réponse, n'est-ce pas? Verset 1. Vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Et tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans, après ces 40 ans dans le désert, pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Dieu les a poussés à continuer, encore et encore. Ils ont prié. Vous pouvez imaginer ce qu'ils ont fait. Pouvons-nous aller dans la terre promise? Et il a répondu, pas encore. Mais en fin de compte, il voulait voir s'il continuerait. Y avait-il un silence qu'il ressentait de la part de Dieu? Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas. Il voulait vous faire connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Parfois, Dieu ne répond pas, ne nous répond pas encore, parce qu'il veut voir si nous allons continuer. Prenons un virage à gauche et parlons de la persévérance d'une manière différente, de l'endurance, du fait de continuer. Frères et sœurs, nous avons été testés de cette manière. Allons-nous continuer? Dieu, montre-nous quand tu vas revenir. Montre-nous quand Christ reviendra. Parfois, nous ne le savons pas. Parce que Dieu dit, non, je veux juste voir si vous allez continuer. Alors, comment réagissons-nous au silence? Comment réagir au silence? Le plus simple est de s'assurer que nous utilisons les outils que Dieu nous donne pour trouver une réponse. Vous ne recevrez pas d'appel téléphonique de Dieu. Nous devons utiliser ce qu'il nous a donné. Il dit, j'ai ce livre. Tous ces mots sont mes mots. Ce sont mes pensées. Ce sont mes voix. C'est ainsi que vous pouvez apprendre ce mode de vie. Je vous ai donné un ministère qui prend ces mots et les applique dans les temps modernes pour que nous puissions appliquer les principes dans nos vies. Parce qu'il n'y a rien dans le livre sur la façon d'acheter une voiture ou sur le meilleur emploi à occuper dans 24 ans. Mais vous pouvez obtenir des conseils. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ministère qui vous conseille. Il peut s'agir d'autres frères. Nous devons agir avec les outils dont nous disposons. En cas de silence, nous devons faire confiance au plan de Dieu. Nous devons croire qu'il est peut-être en train de faire des choses à l'arrière-plan. Et avec tout cela, on pourrait dire que nous devons avoir confiance que Dieu est en train de faire quelque chose de plus grand. Et si nous regardons en nous-mêmes, si nous nous examinons, si nous méditons sur la situation, nous pouvons découvrir qu'il y a des domaines où nous sommes trop éloignés de Dieu pour obtenir une réponse. Si nous nous rapprochons de Dieu, il se rapproche de nous. Parfois, il se peut que nous ne soyons pas au bon endroit pour pouvoir nous approcher de lui. Mais dans ce cas, si nous nous rapprochons de Dieu, il se rapproche de nous. Si nous sommes trop éloignés de Dieu, comment va-t-il nous répondre? Parfois, la réponse est le silence. Nous l'avons vu, parfois Dieu dit, pas encore, attendez, parfois Dieu dit, non, parfois Dieu ne dit rien. Mes frères, la plupart du temps, Dieu dit oui. Nous servons un Dieu qui dit généralement oui à la prière, peut-être pas de la manière dont nous l'attendons, de la manière dont nous l'anticipons, pas de la manière dont nous l'avons demandé même, il sait ce qui se passe dans nos esprits. Il sait quels sont nos besoins. Ainsi, lorsque Dieu répond, la plupart du temps, il dit oui. Cela devrait être encourageant, car cela signifie que nous sommes proches de Dieu. Cela signifie que notre volonté est alignée sur celle de Dieu. Cela signifie que les désirs, les souhaits, les demandes que nous formulons entrent dans le cadre où Dieu peut dire oui. Lorsque Dieu répond à la prière, cela signifie que vous suivez le bon chemin de vie. Vous suivez le chemin qu'il veut que vous suiviez. Tu fais les choses qui permettent à Dieu de dire oui. Ainsi, chaque fois que vous avez répondu à une prière, il peut s'agir de la plus petite des choses, où sont mes clés? Dieu, peux-tu m'aider à trouver mes clés? Waouh, voilà mes clés, je suis en train de mourir d'un cancer. Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Et tout ce qui se trouve entre les deux, lorsque Dieu dit, oui, frère, vous, moi, nous devrions tous être grandement encouragés et nous devrions être en mesure de nous approcher. Oui, c'est le plus facile. Ce serait amusant si je pouvais commencer par le oui, mais nous n'aurions pas couvert toutes les choses importantes concernant les noms et les peut-être et tout le reste. Parce que oui, c'est facile. Votre prière a été exaucée. Mais trouvez le oui. Lorsque vous obtenez un oui, assurez-vous de le trouver. Parce que parfois, le oui n'est pas comme vous l'attendiez. Il se peut donc que nous ne reconnaissions pas le oui au début. Aujourd'hui, j'ai un chatouillement dans la gorge. Alors cherchez-le. Trouvez le oui. Si vous demandez quelque chose, ce n'est pas forcément évident au départ. Mais les pièces sont déplacées, les pions sont changés, et finalement, vous obtenez un oui. Le chemin n'est généralement pas facile parce que souvent Dieu dira « pas encore ». Parfois, sur vos demandes, il dira « non » parce qu'il a une vision plus large pour le oui. Parfois, il se tait parce qu'il veut que tu creuses dans la parole pour qu'il puisse te donner le oui. Mais en fin de compte, Dieu veut dire oui à vos prières. Dieu veut être capable de faire et de vous donner les choses que vous demandez. Allez au 1 Jean, chapitre 5, pour conclure. 1 Jean 5, encore quelques versets. Verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Le verset 13 dit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Et voici l'assurance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quoi que ce soit, il nous exauce. Rappelez-vous donc que si nous ne demandons pas selon sa volonté, à l'inverse, il ne nous entend pas. Donc, si nous demandons selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons des requêtes que nous désirons de lui. Dieu entend nos prières. Nous savons qu'il nous répondra. Nous terminons ce dernier passage par Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Dieu nous exaucera. Nous commencerons au verset 5 de Philippiens 4. Que votre modération soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne manquez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Que votre demande soit connue de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu répond toujours à nos prières. Nous devons être prêts à accepter ses réponses. Nous devons chercher à connaître ses réponses. Nous devons nous améliorer, nous développer afin d'obtenir le oui à la fin, parce que nous savons que nous servons un être qui veut que nous fassions partie de la famille de Dieu. Alors, sur ce chemin, priez sans cesse, demandez à Dieu, puis cherchez sa réponse.